Je vais continuer le message que j'ai commencé. C'est une série de messages que j'ai commencé là, plusieurs semaines. Puis, c'est sur le combat spirituel. Pour faire un résumé bien court, tous les gens sur la terre devraient réaliser que ce combat-là a livré. Malheureusement, les seuls qui finissent par le réaliser, c'est les chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens, ils lisent la Bible, puis finissent par comprendre ce qui se passe présentement, pourquoi qu'on est comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans le monde invisible, qu'est-ce qui est là qu'on a comme guerre possible autour de nous. Mais la majorité des gens s'en rendent pas compte. Puis malheureusement, souvent, même les chrétiens, ils oublient qu'on est en guerre. Parce que la terre promise, frères et sœurs, est pas maintenant. C'est pas maintenant qu'on peut dire qu'on a atteint le but, puis qu'on peut se relâcher, puis qu'on peut se laisser aller, puis d'accepter tout ce qui passe devant nous. Au contraire, nous sommes encore dans notre marche vers la cité céleste. Puis on n'est pas encore arrivé en haut. Puis tant qu'on va être sur la terre, on est en guerre. En guerre contre la puissance des ténèbres. On a vu plusieurs messages sur les différents esprits qu'on a à combattre. Et aujourd'hui, on va apprendre, pas nécessairement apprendre, mais peut-être juste se le faire rappeler, mais peut-être pour certains, on va apprendre à discerner un esprit qui est là, puis je pense que c'est un des esprits qui agit le plus dans la vie chrétienne de tous les gens. Que les gens, quand ils sont attaqués par cet esprit-là, souvent, on s'en rend pas compte, on est mené, inspiré, puis manipulé par cet esprit-là. Puis je crois que c'est important qu'on parle de cet esprit-là afin que les gens puissent le réaliser et commencer à s'opposer à cet effet-là dans nos vies afin qu'on puisse avoir de la victoire. Je vais prier. Seigneur, on vient te remercier dans le nom de ton Fils Jésus pour le bon temps qu'on a eu ce matin dans ta présence pour venir te louer et t'adorer, Seigneur. Merci de ton Saint-Esprit qui nous remplit, qui nous revêt, qui nous équipe, qui nous fortifie, qui nous fait du bien. Puis merci aussi pour ta parole qui est annoncée, Seigneur. Elle va annoncer avec une pleine liberté ici au Québec. Merci pour ta parole qui va être annoncée puis qui va changer nos cœurs et nos pensées, afin qu'on rentre dans le combat que tu nous appelles, puis qu'on puisse combattre efficacement contre toute la puissance des ténèbres, afin de ne pas être utilisé ou manipulé par l'ennemi et entraîné à détruire plus qu'à construire. Que ton Saint-Esprit prenne toute la place dans cette réunion dans le nom de Jésus. Amen. L'esprit qu'on va voir aujourd'hui, c'est apprendre à combattre contre les esprits de mensonge. La Bible parle qu'il y a un esprit de mensonge qui agit. Puis si dans toutes les études qu'on a faites, il y avait vraiment des noms d'esprits ou des types d'esprits qui sont écrits dans la Bible, qui est important qu'on puisse les identifier. Aujourd'hui, c'est l'esprit de mensonge qui agit depuis le début de la création. Dans l'histoire d'Adam et Ève, là, tu avais l'incarnation directe de toute cette histoire-là. Quand tu vois Adam, Ève, Dieu qui leur donne des commandements, puis que le diable, comme étant une quatrième personne, un quatrième individu qui vient se mêler de l'histoire de la relation que les trois avaient, puis s'en vient dire des choses à Adam et Ève dans le but d'amener les gens sous son règne à lui, plutôt que les gens continuent à être sous le règne de Dieu. Il s'est servi de les séduire, il s'est servi de les convoiter, il s'est servi de mensonges pour attirer Adam et Ève dans l'égarement. Puis je crois que cet esprit-là de mensonge agit encore aujourd'hui, 2000 ans après Jésus-Christ, qui se trouve à être 6000 ans après Adam et Ève. Le diable n'a jamais arrêté d'agir dans le monde, puis dans les individus. Ces esprits sont même encore plus spécialistes des ruses à utiliser parce qu'ils connaissent la faiblesse des humains. S'ils ont su discerner les faiblesses d'Adam et Ève, là, suite, quand ils sont arrivés là, l'ennemi et ses démons ont réussi à séduire Adam et Ève en connaissant leurs faiblesses et sachant quoi leur dire pour les entraîner À combien plus forte raison, après 6000 ans d'histoire, qui ont vu l'humanité dans... Ils ont entraîné l'humanité dans toutes les directions possibles de péché contre Dieu et de désobéir à la parole de Dieu. Encore plus, ils sont spécialisés aujourd'hui pour essayer de tromper les chrétiens, pour essayer de tromper les chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'il va toujours avoir la victoire sur les chrétiens. Quand les chrétiens allument la lumière et commencent à voir clair, ils peuvent commencer à combattre. Tant qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, on ne peut pas résister. Parce que c'est une phrase, c'est une belle phrase, disent « Résistez au diable, puis il fuira ». Mais quand le diable vient-il m'attaquer? Quand vient-il m'injecter des choses pour que j'aie à résister? C'est là qu'il est important de comprendre quand que ça arrive. Pour le comprendre, il faut que la lumière s'allume. C'est pour ça qu'on parle de ces enseignements-là qui nous amènent à allumer la lumière pour dire « Ben là, là, on se laisse plus faire ». On apprend, à partir d'aujourd'hui, à combattre contre cette entité-là. Notre lutte contre le mensonge, frères et sœurs, là, ça nous amène à combattre aussi, pas juste contre l'esprit de mensonge, ça nous amène aussi à combattre contre notre propre nature. Parce que c'est déjà dans notre nature humaine d'aimer le mensonge. Dans Matthieu 15, 19, je n'ai pas envie de sortir vos Bibles, j'ai tout fait un PowerPoint avec les versets, ils sont tous là. Matthieu 15, 19, ça nous dit, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » C'est de notre intérieur que viennent les faux témoignages. Qu'est-ce qu'un faux témoignage? C'est un mensonge. Nous sommes appelés à témoigner des choses qui sont vraies. Mais dans la minute qu'on commence à dire des choses qui ne sont pas vraies, c'est parce qu'on est animé d'un mensonge. Il y a plusieurs raisons pourquoi on peut avoir des mensonges dans notre cœur. Mais le point est qu'on doit apprendre à combattre contre le mensonge afin de se tenir dans la vérité. Parce que les esprits de mensonge savent que le mensonge, qu'on aime le mensonge, on aime compter des menteries, ça fait partie de notre nature humaine normale. On aime laisser agir, laisser sortir de notre bouche des choses mensongères. Fait qu'il faut apprendre à combattre contre les esprits qui essayent de nous injecter des mensonges, mais aussi à combattre contre notre propre nature humaine, qui nous amène à mentir. Tout le combat se passe dans nos pensées, dans notre cœur. C'est là qu'est le siège de notre combat. L'ennemi peut nous injecter des idées, comme des idées de mauvaises pensées, des meurtres, des adultères, des impudicités, des vols, des mensonges, des calomnies. Il peut les injecter. L'important, c'est d'écouter ce qu'on pense, puis de commencer à combattre, puis pas accepter que ça passe par notre bouche, puis qu'on agisse en fonction de ces choses-là. Savez-vous que dire un mensonge, c'est pécher contre un des 10 commandements de Dieu? Dans Exode 20, au verset 16, ça nous dit, « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Ce qu'il faut comprendre, devant Dieu, il n'y a pas de petits péchés et de gros péchés. Il y a ses commandements. Savez-vous c'est quoi un commandement? C'est un ordre. Imaginez l'armée, là, le plus grand, le grade le plus grand, c'est le haut commandement. Le haut commandement, là, c'est lui qui contrôle l'armée entière. Et quand le commandement, le haut commandement donne un ordre, mais toute l'armée s'en va en direction de cet ordre-là. C'est impensable qu'il y ait des parties de son armée qui ne rentrent pas dans la direction de l'ordonné. Le haut commandement, c'est l'autorité suprême dans l'armée. Fait quand un général donne un ordre, ça s'en va par là. Et nous, en tant qu'humains, je nomme pas juste les chrétiens, en tant qu'humains sur la planète entière, Le Créateur, celui qui a le haut commandement suprême sur toute sa création, celui qui a créé la création et qui en est le propriétaire, lui a donné des commandements, des ordres qui doivent être respectés tels que ça a été annoncé. Jésus a dit, celui qui enseignera à pas respecter les commandements, même le plus petit des commandements, va être appelé le plus petit dans le royaume. Dieu nous appelle à respecter les commandements. Jésus nous en a rajouté des commandements. Il a repris des commandements de l'ancien, de la parole de Dieu, puis il les a comme ramenés dans le nouveau, puis à chaque fois qu'il les ramène, il les a même modifiés, puis des fois, il les a amplifiés. Mais le mensonge, il est encore répété dans le Nouveau Testament, comme quoi ça fait partie du mode de vie du chrétien de rechercher à résister au mensonge, à refuser le mensonge dans sa vie et de marcher selon la vérité. Si quelqu'un ment et qui pense que ça ne dérange pas Dieu, il s'abuse lui-même. Il se trompe lui-même. Si quelqu'un se dit, « Oh, c'est pas grave, c'est juste une petite menterie. » Dieu ne trouve pas ça drôle. Dieu nous dit, dans Zacharie 8, 17, que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment. Car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Dieu y haït certains comportements de ses créatures sur la planète. Il y a des choses que pour lui, c'est inacceptable. Non seulement on sait que Dieu est amour, que Dieu, c'est rien que de l'amour. C'est vrai que Dieu est amour. Mais autant que Dieu aime, mais Dieu y haït des choses aussi. On pense que Dieu peut pas haïr parce que Dieu est amour. Mais on se trompe. Dieu n'aime pas tout ce qui se passe, même si Dieu est amour. Sinon, il aimerait voir que tout le monde s'entretue. Dieu, il prend pas plaisir à ces choses-là. C'est pour ça qu'il a mis des ordres, des hauts commandements, là. Dans son haut commandement, il a donné des commandements, des ordres. Nous ne devons pas avoir de faux témoignages. De témoignages faux. Jésus, lui, quand il parlait, il disait « en vérité ». C'était pas par tromperie puis mensonge puis commencer à ramener des mensonges. Dieu, il est la vérité. Dieu aime la vérité. Jésus est la vérité. C'est écrit en haut, la vérité. Puis nous, nous sommes de la vérité. Nous avons été appelés à marcher dans la vérité. Dieu haït le mensonge. Il dit que nul ne pense du mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment. On a comme pas juste un avertissement, on va en voir plusieurs versets qui nous parlent comment ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu pense du mensonge. Puis l'esprit de mensonge essaie de nous injecter des pensées pour nous amener à ce qu'on se mente les uns les autres. Il faut apprendre à combattre contre ça parce que c'est l'œuvre du diable. Il a commencé par un mensonge au début de la création pour entraîner Adam et Ève dans le péché et à recevoir les conséquences qu'on vit encore aujourd'hui d'être séparés d'avec Dieu. Par défaut, on est tous séparés d'avec Dieu, puis on est tous rejetés, puis on a besoin de passer par Jésus-Christ pour revenir à Dieu afin d'être pardonnés. Proverbe 6, 16 nous dit il y a six choses que Dieu est. Il y a six choses que est l'Éternel. Et même sept qu'il a en horreur. Puis le verset 19 nous dit, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Mais le point que je veux peser pour comme amplifier une deuxième fois que Dieu haït le mensonge, mais il nous le dit que cette chose qu'il haït, puis une de ces choses-là, c'est le mensonge. Ça lui pue au nez. Dieu trouve nullement agréable quand un de ses enfants ment. Lorsque quelqu'un ment, il n'est pas inspiré ni animé du Saint-Esprit. mais du diable. Vous allez voir pourquoi. Dans 1 Jean 2, 21, Jésus, donc c'est l'apôtre Jean qui est en train de nous parler. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce que aucun mensonge ne vient de la vérité. Ce qu'il est en train de dire là, c'est que quand tu t'approches de la vérité puis tu la connais, cette vérité-là, c'est qui? C'est, premièrement, c'est Jésus qui est la vérité, et puis tout ce que Jésus a dit, c'est sa parole est la vérité. Fait qu'on la connaît, la vérité, on le sait qu'en Jésus, c'est la vérité, puis que dans sa parole, il y a la vérité. Là, c'est ça que ça nous dit. Je vous écris pas parce que vous la connaissez pas, mais vous la connaissez. Mais, et que parce que aucun mensonge vient de la vérité. Tout ce qui provient de la bouche de Jésus, ce qui provient de la parole de Dieu, c'est la vérité. Puis, il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Lorsqu'on vit dans selon la parole de Dieu, nous vivons dans la vérité. Nous marchons dans la vérité. On ne peut pas marcher dans le mensonge et dire que nous marchons dans la vérité. Il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Quand tu veux marcher dans la vérité, tu marches selon la parole de Dieu qui est vérité. Puis ta vie, de ce qu'il va avoir dans tes pensées, ce qu'il va avoir dans ta bouche, ce qu'il va avoir dans tes actions, ce n'est que vérité. Un chrétien qui est dans son cheminement de se sanctifier, ça veut dire qui est dans son cheminement de changer sa vie pour arriver à être de plus en plus comme Jésus, puis de plus en plus consacré, va avoir à faire face à ce point-là dans sa vie. Est-ce qu'il veut abandonner le mensonge? Parce que c'est sûr que par défaut, en partant, nous étions tous du mensonge. On ne faisait pas partie de la vérité, on faisait partie du mensonge. On vivait dans le mensonge. Mais quand tu deviens chrétien et tu veux te sanctifier, il va falloir qu'un jour ou l'autre, tu commences à faire face à ce point-là et combattre cet esprit de mensonge-là qui essaie toujours de nous garder dans le mensonge. Plus qu'on veut s'approcher de la vérité, plus qu'on va avoir à renoncer au mensonge, puis à rejeter le mensonge, parce que je vais vous dire franchement, notre tête, notre intelligence est remplie de mensonges. Puis quand on vient au Seigneur, c'est parce qu'on a compris une vérité, c'est que Jésus pouvait te sauver et te délivrer, te transformer pour que tu sortes de ce que tu étais, pour que tu deviennes une nouvelle créature. Il met en toi ce que tu as besoin pour devenir autre chose. Puis il veut faire un ménage dans ta vie, mais il faut que tu le laisses faire. Puis quand il va te montrer qu'il veut travailler sur toi dans ta vie au niveau du mensonge, il faut que tu acceptes et que tu écoutes, tu dis c'est vrai. Il faut le dire que c'est vrai, Seigneur, que ce que tu dis est vrai, puis ce que je pense dans toutes mes mauvaises affaires, c'est du mensonge, il faut que ça sorte de ma vie. Il n'y a pas de mensonge qui vient de la vérité. Fait que si on a des mensonges qui nous viennent dans notre esprit, ça ne vient pas de la vérité. Dans Jean 8, 44, il nous donne d'autres encore éclaircissements sur où ce que vient le mensonge. Jésus est en train de parler à des gens qui étaient tous rassemblés devant lui. Ces gens-là voulaient en apprendre plus sur le chemin pour être sauvés. Mais ils ne savaient pas où ils s'en allaient, ces gens-là. Ils étaient comme mélangés dans leur idée. Ils mélangés par quoi? Par le mensonge. Là, ils entendent les paroles de Jésus, puis ils ne comprennent pas. Jésus leur explique pourquoi ils ne comprenaient pas. Parce que vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il, en parlant du diable, ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. J'ai dit tantôt qu'il n'y a pas de mensonge qui vient de la vérité. Mais dans ce verset-là, il est en train de nous dire, chaque fois que vous marchez dans le mensonge, puis que vous proférez des mensonges, vous êtes animé de votre père, le diable. Parce que le diable ne peut pas dire de vérité. Fait que si une personne accepte de mentir dans sa vie, elle est animée par des pensées inspirées par le diable. Le diable ne peut rien dire de vrai. C'est toujours soit qu'il va dire complètement des mensonges ou des demi-vérités qui semblent être la vérité, mais c'est encore dans le but de tromper, puis de saisir, puis de lier, puis de détruire les gens qui connaissent pas la vérité. Parce que si vous vous approchez de la vérité, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez comprendre c'est quoi la vérité. Fait que si le diable vient à vous puis vous dit ces demi-vérités ou ces mensonges, ça va être facile à discerner et à dire, arrière de moi, Satan, je veux rien savoir de tes mensonges. Moi, je veux rester dans la vérité. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, puis je veux persévérer dans sa parole jusqu'à la fin. Psaume 101, le verset 7 nous dit, « Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas ma maison. Et celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. » Ouch! Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Moi, en tant que chrétien, je dois vous dire franchement, la chose que j'aime le plus dans ma vie chrétienne, c'est quand que j'entre dans la présence de Dieu. Pour moi, là, dans ma vie chrétienne, c'est ce qui est le plus important. C'est beau d'avoir une maison, d'avoir une femme, d'avoir des enfants, mais il y a plus que tout ça. Le fait d'entrer dans la présence de Dieu puis commencer à goûter sa présence, là, tu es rempli de sa paix, de sa joie. Puis tu sens que ta vie change quand il est là. Tu sens que ta vie est transformée. Tu te sens béni. Tu te sens riche, même si t'as rien. Même si t'as mal dans ton corps, quand ton âme est connectée avec Dieu, t'es l'homme le plus riche sur la terre. Parce que ta communion-là, il n'y a rien qui peut t'acheter ça. T'auras beau avoir 1 million dans ton compte de banque puis d'essayer de donner ça, ça te procurera pas ce que l'Esprit de Dieu peut faire quand tu es en communion avec lui, quand tu en es rempli, quand tu en es revêtu. Il restaure ton âme. Mais ça, ça se fait pas automatiquement quand tu viens à Jésus. Ça commence, tu commences à le goûter. Mais plus que tu t'approches de lui, plus que tu cherches à rentrer dans sa présence, premièrement, en faisant le ménage de ta vie, pour pas qu'il n'y ait rien qui t'empêche d'entrer, parce que des fois, il y a des choses où je dis, Seigneur, pardonne-moi de ça, afin que le Seigneur te pardonne. Puis là, après ça, tu vas pouvoir rentrer. Nos péchés nous empêchent d'entrer dans la présence de Dieu. Mais si tu veux goûter sa présence, son onction et sa bénédiction, faut que tu sois sérieux. Faut que tu sois sincère. Faut que tu sois vrai. Si tu es dans le mensonge, tu ne subsisteras pas en ma présence. Ça veut dire que Dieu ne peut pas tolérer le mensonge dans sa présence. Il ne donnera pas sa bénédiction, la bénédiction de sa présence à ceux qui mentent. C'est un péché trop grave aux yeux de Dieu. Dieu s'en horreur, comme je vous l'ai dit tantôt. Il haït ça. Tu peux pas marcher dans des mensonges puis dire que tu es rempli du Seigneur, ça se peut pas. Tu es en train de te tromper toi-même. Je vous le dis, frères et sœurs, il y a du monde assis dans l'église, je dis pas ça pour ici, j'en ai vu dans ma vie, puis je nomme pas de nom, je vise pas personne. J'ai vu des personnes mentir ouvertement aux autres, puis ils pensent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Je regrette, Dieu n'est plus là, ça fait un bout, quand on s'est pas repenti de nos mensonges. Dieu haït ça, le mensonge. À quel endroit pouvons-nous être animés du mensonge? Parce que là, on entend que Dieu n'aime pas le mensonge, mais pour comprendre en profondeur, dans quel domaine de ma vie que je peux vivre des mensonges, puis je m'en rends même pas compte. Si je fais, hein? En tout temps, pas de n'avoir, mais quand on va voir les points, j'allais dire, waouh! Ça m'arrive souvent. Puis il faut faire attention à ça, frères et sœurs. La parole de Dieu nous est donnée dans le but d'allumer nos lumières. Puis là, on voit c'est quoi, puis là, on peut commencer à combattre ça, parce que Dieu n'aime pas ça. Parfois, le premier endroit où que on voit le mensonge, parfois, on peut se mentir à nous-mêmes. Puis c'est la pire place, parce que quand quelqu'un se pense quelque chose, puis qu'il est ment, il se ment à lui-même, puis il se fait des accroires, il se pense correct, mais qu'il marche dans le mensonge, c'est la pire place, parce que le gars ne peut pas s'en sortir tant qu'il admet pas qu'il se compte des mensonges. Tu peux pas changer de vie si tu n'avoues pas qu'est-ce que t'es. Mais si tu penses que t'es correct, tu changeras pas, tu vas rester comme que t'es, puis Dieu peut pas changer rien dans ta vie à moins que tu admettes que tu es comme ça. Parfois, ça nous arrive de nous mentir à nous-mêmes en n'admettant pas ce que Dieu nous révèle. Par exemple, on va lire la Bible. Il y en a qui la lisent d'une manière systématique, commencent à la lire, commencent un livre, puis s'en vont jusqu'à la fin. Il y en a d'autres qui rouvrent la Bible de temps en temps. Là, ils lisent des bouts de passage. Oups! Est-ce qu'on laisse la Bible nous parler quand on la lit? Parce que tu peux lire la Bible, c'est une chose, puis accepter ce que tu lis, ça en est une autre chose. Comprendre ce que tu lis, ça en est un autre. Et mettre en pratique ce que tu lis, ça en est un autre. Est-ce qu'on met en pratique ce qu'on lit? Là, la plupart, si je pose la question, mais là, j'ai déjà comme... j'ai ébranlé déjà dans votre position, mais si j'aurais posé la question, est-ce que vous appliquez la parole de Dieu dans vos vies? Tout le monde se sent, ben oui. En partant, tant que tu veux être chrétien, tu dis, oui, je veux la vivre, la parole de Dieu. Mais si on s'arrête et on commence à analyser chaque point de la parole de Dieu, est-ce qu'on va continuer à dire qu'on l'applique, la parole de Dieu? Moi, je dois humblement vous avouer que j'enfreins la parole de Dieu régulièrement, puis que j'ai demandé pardon régulièrement à Dieu. Si quelqu'un pense qu'il est sans péché, vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Parce qu'on a tous des péchés, à tous les jours, même si ça fait 30 ans que t'es chrétien. Puis si on pense qu'on est rendu correct devant Dieu, on se trompe soi-même, on se ment. Puis Dieu, quand il nous a donné sa parole, c'est pas parce qu'il disait, je vais lui donner une parole bien compliquée à exécuter, juste pour prendre plaisir des voix souffrir. Puis que je sais qu'ils l'accompliront jamais, puis à la fin, je vais tous les juger et les condamner. C'est pas pour ça que Dieu a donné ça. Il nous a donné sa parole dans le but. Ils vont réaliser qu'ils l'ont pas l'affaire, puis ils vont me demander de l'aide. Ils vont me demander pardon, puis ils vont me demander que j'y les aide, puis ils vont me demander que j'ai des livres face à ce que je leur ai demandé, puis c'est moi, Dieu, qui va faire l'œuvre en eux. Puis il y a les gens qui vont atteindre un certain niveau spirituel, ça sera pas parce qu'ils se pensent bon, ça y va, c'est parce qu'ils vont avouer que tout ce qu'on a comme don, c'est parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Tout ce qu'on est comme personnage, c'est Dieu qui nous a rendu de même. Y a-t-il un amen à cela? Un verset dans 1 Jean 4, 6 nous dit, « Nous, nous sommes de Dieu, et ceux qui connaissent Dieu nous écoutent. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Il dit ici, les gens écoutent quand on rouvre la bouche et qu'on parle de la parole de Dieu. C'est des gens qui sont de Dieu puis ils veulent écouter, ils veulent avancer, ils veulent que leur vie change. C'est correct. Mais si tu parles de la parole de Dieu à des personnes puis ils veulent rien savoir, ils sont pas de Dieu. Puis ils sont même animés de quelque chose d'autre que l'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'erreur. Savez-vous c'est quoi l'Esprit de l'erreur? L'esprit de l'erreur, il est très lié avec l'esprit de mensonge. C'est que l'esprit de mensonge réussit à dire quelque chose à cette personne-là, et que la personne croit au mensonge, c'est pour ça qu'elle est rendue dans l'erreur. Fait qu'une personne qui est convaincue qu'elle est dans le mensonge, puis convaincue que c'est ça la vérité, il est dans l'erreur. Là, l'autre essaie de dire, c'est pas ça que Dieu dit dans sa parole. Dieu dit, c'est ça. L'autre dit, moi, j'accepte pas ce que tu es en train de dire parce que moi, j'ai mon opinion sur l'affaire, puis moi, je pense comme ça, puis moi, j'ai mon chemin à moi. Fait que lui, il croit, il peut être sincère, il peut être convaincu, mais sincèrement dans l'erreur. La parole de Dieu, elle nous est donnée pour nous dire la vérité, puis celui qui la reçoit, lui, il doit l'accepter comme étant la vérité. Faut pas qu'il pense qu'il est correct, sinon l'esprit de l'erreur l'habite. Il peut être bien convaincu que sa religion va le sauver, il est peut-être bien convaincu qu'il est dans le bon chemin, puis avoir les deux pieds dans le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Mais, malheureusement, même si on est de Dieu qu'on connaît la vérité, il nous arrive parfois d'écouter l'esprit de mensonge, puis là on se met à croire à des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu, puis là on les accepte, puis on se tient là-dedans, puis on commence à être dans l'erreur. Il y a eu plein de mouvements de doctrines, de fausses doctrines, qui viennent d'esprits séducteurs, des esprits de mensonges, qui annoncent des faussetés. Les chrétiens croient n'importe quoi. Pourquoi ils croient n'importe quoi? C'est pas parce que Dieu a pas donné sa parole. Oui, Dieu a donné sa parole. Dieu a donné toute la révélation nécessaire pour qu'on puisse marcher dans son chemin. C'est quand on accepte les mensonges qu'on commence à être trompé. Puis il est important qu'on la connaisse, la parole de Dieu. Il est important qu'on l'apprenne par cœur, qu'on la médite, qu'on réfléchisse, qu'on essaye de la comprendre et de la vivre pour être capable de refuter le mensonge. Parce que si on n'a pas d'intérêt à vouloir l'apprendre, la vérité, comment est-ce qu'on va être capable de combattre le mensonge? Le mensonge peut être enseigné, comme là, je pourrais vous dire, plein de menteries. Si vous n'allez pas étudier la Bible, vous êtes responsable de votre vie devant Dieu. Vous ne pourrez pas dire, « Ouais, mais Daniel, il nous a dit ça. » Non. C'est pas à cause que moi, je vous ai enseigné une chose que vous devez tout prendre comme du cash. Vous devez étudier la parole de Dieu vous-même et d'examiner les Écritures pour savoir ce qu'on vous dit y est exact ou c'est du mensonge. Puis s'il y a du mensonge, c'est de votre devoir de venir me voir et de m'expliquer le point que vous ne comprenez pas ou que vous n'êtes pas d'accord. Puis là, on va regarder ce que la Bible dit ensemble, puis on va chercher à comprendre davantage la vérité. Il n'y a aucun homme sur la terre que la vérité infuse en lui seul. Celui qui se pense que la vérité infuse à lui seul, c'est un orgueilleux. Et Dieu n'a rien à faire avec les orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Mais il donne sa grâce aux uns, à ceux qui sont capables de l'avouer qu'on ne l'a pas l'affaire, mais qu'on demande à Dieu continuellement qu'il nous donne ce qu'on a de besoin. Puis Dieu le fait fidèlement, parce que toute la gloire revient à qui? Elle revient à Dieu. Amen. Fait que l'esprit de l'erreur, l'esprit de vérité, puis quel est le pas l'outil, mais quel est le moyen pour trancher qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai? C'est la parole de Dieu. Il faut l'apprendre, frères et sœurs. Puis c'est notre devoir individuellement de l'apprendre. Même si je serais l'apôtre Paul, là, puis que je vous parle devant vous ce matin, là, mais ça sera en cause de votre devoir de vérifier, comme les gens de Béry examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si qu'est-ce qu'on leur disait, c'était exact. Fait que faut l'étudier, la Bible. Ah, tu dis ça, là, ta minute, là, tu vas voir, ah oui. Là, on regarde le contexte, puis on regarde les références, puis même des dictionnaires bibliques, puis on étudie. Puis des commentaires bibliques, puis là, on apprend à approfondir pour aller de plus en plus profond dans la parole, pour pas juste être des chrétiens de surface, parce qu'un chrétien de surface n'a pas de racines assez profondes pour être capable de résister au soleil qui va venir dans pas long. Dans pas long, il va y avoir des catastrophes sur la terre, des catastrophes dans les pays, des catastrophes dans le monde, puis l'antéchrist va s'installer, puis la marque de la bête, Si on n'est pas enraciné dans la parole, on n'aura pas la force de passer à travers. C'est présentement que c'est le temps de l'étudier, d'approfondir notre relation, de développer cette relation-là, de faire confiance à Dieu, d'apprendre à marcher avec Dieu, que peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, tu vas rester ferme parce que tu es bâti sur le roc. Quel est ce roc? C'est Jésus et sa parole. Tiens, on mène à cela? L'esprit de mensonge veut nous amener à mentir aux autres qui nous entourent. Parce que là, on se mentait à soi-même, des fois en n'avouant pas notre état, mais là, ça peut arriver que l'esprit de mensonge injecte des idées dans la tête pour le dire aux autres. Jérémie 9,5 nous dit, « Ils se jouent les uns les autres. Ils ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. » Ça, c'est un constat de la nature humaine. Puis Dieu veut pas que ses enfants soient mêlés à ces gens-là. Savez-vous que raconter des mensonges pour faire rire, c'est un péché, puis Dieu ne rit pas? Même si ça serait pour une joke. Ah, oh, c'est à eux, c'est une joke, mais il a raconté un mensonge. Dieu rit pas du tout. Des jokes de mensonges. Proverbe 26, 18 nous dit, « Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, est ainsi un homme qui trompe son prochain et qui dit, « Oh, c'était juste pour plaisanter. » Quand Dieu entend un individu en train de dire des mensonges à un autre pour faire des jokes, là, mais il compare ça comme un fou furieux qui est en train de lancer du feu, puis des flèches, puis de la mort, il est en train de tuer l'autre personne. Fait que celui qui raconte ses mensonges pour faire rire, il pense que c'est drôle, puis aux yeux de Dieu, il est en train de tuer l'autre. C'est aussi pire pour lui devant Dieu qu'il serait en train de le prendre une flèche avec du feu, puis de faire du mal à l'autre, puis de brûler l'autre, puis lancer des flèches pour le tuer. Mais quand tu es en train de mentir à ton prochain, pour Dieu, c'est la même affaire, puis Dieu trouve pas ça drôle. Faut que ça arrête dans nos vies, ça, frères et sœurs, les mensonges. Peu importe sur quelle forme qu'il y ait le mensonge. De notre bouche, il ne doit sortir que la vérité. Parce que l'inspiration du mensonge, c'est l'esprit de mensonge, c'est le diable qui est le père du mensonge, c'est pas le Saint-Esprit. Puis notre corps humain, il est facile à aimer le mensonge. Il faut se débarrasser de ça. La Bible nous dit aussi, utiliser des paroles mensongères, c'est de l'hypocrisie pour attaquer son prochain. Psaume 62, verset 3. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme, chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Là, il dit comment? Il dit, ils bénissent de leur bouche, puis ils maudissent. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils le bénissent de leur bouche, puis le maudissent dans leur cœur. On le bénit de notre bouche, puis on le maudit dans notre cœur. Ça, là, c'est de l'hypocrisie. Être hypocrite, là, c'est du mensonge. Pour Dieu, là, c'est la même affaire. Quand tu dis, « Oh, que le Seigneur te bénisse », mais dans ton cœur, tu as de la haine, puis tu aimerais le frapper, tu l'haïs, tu veux rien savoir de lui, tu aimes autant pas rien entendre de lui, mais ça, c'est de l'hypocrisie. Puis Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Puis il considère que quand on est hypocrite, c'est puis d'essayer de bénir, puis d'avoir la méchanceté dans notre cœur, c'est comme si tu t'attaques à une tour qui est en train de pencher pour la jeter à terre. C'est comme si tu as une clôture qui est en train de pencher, puis tu veux vraiment la briser au complet. Là, tu frappes dessus pour que... Ben, quand tu es en train de mentir, puis de dire des mensonges, et d'être hypocrite, t'es en train de frapper l'autre personne aux yeux de Dieu. Il y a un verset qui dit, dans les derniers temps, Paul qui dit ça, les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, blasphémateurs, rebelles, ennemis des gens de bien. Puis ça dit qu'ils ça sera animé de compter des mensonges, des faux témoignages, des paroles qui sont fausses. Puis si tu regardes la vie, là, la manière qu'elle se déroule, là, c'est rendu là aujourd'hui bien comme faux. Même là, quand que tu veux vendre de quoi, je l'ai déjà dit, mais là je me répète, avant, anciennement, là, ils vendaient une terre là, juste avec une poignée de main. Leur parole était vraie, je la vends à tel prix, l'autre était d'accord, ils se donnent une poignée de main, là, puis la terre était vendue, puis ça se faisait comme c'était dit. Aujourd'hui, ils vont écrire deux pieds d'épaisseur de documents écrits par des avocats, des notaires, puis tout le kit, puis ils n'ont pas l'intention de respecter ce qui est là. Ils vont chercher à étudier la faille dans tous les documents pour essayer de tromper, pour essayer d'aller rechercher l'autre pièce au bout, puis d'aller, tu sais, toujours essayer de trafiquer pour contourner, pour frauder, pour ça c'est de l'hypocrisie du mensonge, pour essayer de voler son prochain, de l'abattre, de le jeter à terre. C'est ça de même le monde aujourd'hui, mais un chrétien ne doit pas marcher dans ce sens-là. Un chrétien, s'il dit, oh, je te vends ça tel prix, parfait. Tu l'as dit, tu crois que ta parole est vraie, pas question de mentir, puis de dire des faux témoignages, puis essayer de tordre ta parole, puis essayer de faire arriver à d'autres choses. Faut être vrai. Faut être sincère. Faut pas être hypocrite. Puis à chercher à détruire l'autre. Des belles paroles, mais dans le fond, on veut le détruire. C'est pas de même que ça marche dans la vie chrétienne. Puis qu'est-ce qu'on pourra dire aussi toutes les fois qu'un homme compte des menteries à sa femme? Ou que sa femme compte la femme compte des menteries à son homme, ou qu'on compte des menteries à nos enfants, à notre patron, à nos clients, aux autorités, comme le gouvernement, la police. Tu te fais coller, là. Il t'a pogné sur le. Je ne sais pas, jamais, moi, j'ai pas fait ça. On est prêt à se défendre, à compter des menteries. Un chrétien ne doit pas compter des menteries. Faut avouer et dire, oui, c'est vrai, j'ai fait ça. À ton patron, t'es arrivé en retard. Non, je suis pas arrivé en retard, j'étais allé à l'autre bureau. Non, c'est vrai que t'es arrivé en retard, faut-tu être capable de l'avouer et de dire la vérité. Ta femme, c'est la même affaire. Où est-ce que t'es arrivé en retard. Là, tu commences à inventer des menteries pour essayer de te défendre. C'est pas de Dieu. Faut éliminer le mensonge sous toutes ses formes. Parce que l'ennemi, il nous connaît. Il sait nos faiblesses, puis il va essayer de nous injecter des mensonges pour qu'on passe, pour qu'on l'accepte ces mensonges, qu'on les dit à l'autre. Puis quand il a réussi à nous infiltrer, puis à nous utiliser, là, à choter ces mensonges, il nous tient captifs parce que là, il y a un accès dans notre vie, puis il va répéter des mensonges dans notre vie tant qu'on ne confessera pas ça à Dieu pour que Dieu brise le joug de l'ennemi, puis que là, l'ennemi n'ait plus d'emprise sur toi. Faut pas le laisser faire. Il y a même déjà arrivé qu'un esprit de mensonge s'introduise dans l'Église. Jérémie 29,9 nous dit, « Car c'est le mensonge qu'il vous prophétise en mon nom. Je ne l'aurai point envoyé, dit l'Éternel. » Ça peut arriver même qu'on entend la prospérité, Dieu va vous bénir, vous allez tous venir riches, donner dans le tronc, puis là, vous allez venir bien riches. Mais ça, là, la doctrine de la prospérité, c'est un mensonge. Dieu n'a jamais promis qu'on deviendra tous millionnaires. C'est une fausseté. La prospérité est premièrement spirituelle, parce que tu as toutes les richesses d'un lieu céleste. Dans ton âme, de prospérer dans l'état de ton âme. Tu peux prospérer des bénédictions à venir, des récompenses que tu te ramasses pour la vie éternelle. Puis dans le terrain, c'est dit, si on a le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Il y a d'autres versets qui disent, Dieu pourvoira tous vos besoins, puis d'avoir de quoi donner en plus. Mais de là, avoir l'idée de devenir millionnaire parce que tu es chrétien, c'est une fausseté. Mais il y a des chrétiens qui croient au mensonge. Puis là, il espère de devenir millionnaire. Puis là, il écoute ce faux prédicateur-là que Dieu n'a pas envoyé. Il est inspiré par un esprit de mensonge. Puis là, il amène les chrétiens vident leur poche pour donner dans l'œuvre. Puis ils s'appauvrissent. Je te dis pas qu'il faut pas donner. Oui, Dieu veut qu'on donne, mais donne pas dans le but de recevoir. Fallait parce que t'aimes Dieu. Fallait parce que t'as de la joie de donner. Fallait pour toutes les bonnes raisons, mais pas pour t'enrichir. Parce que ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans le piège, et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la destruction. Dieu veut qu'on se contente de ce qu'on a, puis s'il nous en donne plus, hallelujah, mais visez pas pour devenir riche dans le monde terrestre présent. Si vous y en donne, c'est parce qu'il vous aura jugé fidèle d'administrer ses biens à lui dans le but que ça sert pour son nom, pour sa gloire. Pas pour vous perdre. Parce que Dieu veut pas vous devenir riche pour vous perdre. Parce que quand on a l'argent des mains, là, wow, je pourrais m'acheter ça, là, on part, puis on vit dans les convoitises, puis on est entraîné par d'autres sortes de passions puis de péchés qui nous éloignent du chemin d'apprendre à dépendre de Dieu, puis d'avoir confiance en Dieu, puis d'espérer en Dieu. Tout ce qui n'aurait pas alimenté ta relation, tu vas le perdre si tu deviens riche. Prenons garde de pas fixer nos buts comme étant des recherches de richesses temporelles. Fait que les faux prophètes vont essayer de mettre beaucoup de miracles, pas des miracles, mais des promesses. Dieu nous a dit ça. Là, ils essayent de trouver des versets pour fitter ça, cette doctrine-là. Pour faire espérer, puis pendant que le monde espère à ça, le monde vide leur poche, puis en donne de plus en plus, puis ce gars-là, lui, il se prive de rien. Ce prédicateur-là, je peux vous en nommer des prédicateurs aux États-Unis, des gars qui sont millionnaires, puis ça vit dans des châteaux, puis ainsi de suite, puis c'est pas l'Esprit de Dieu qui les a envoyés. Même s'ils prêchent des vérités, mais les mensonges qu'ils emmènent sont menés par un autre esprit qui emmène ces mensonges-là. Puis il y a un exemple dans la Bible, je n'y irai pas, mais vous irez voir ça, c'est ce passage-là dans 1 Roi 22. Dieu peut permettre que le mensonge rentre dans son Église. Mais c'est dans le but d'éprouver les fidèles. Dans le but d'éprouver les fidèles pour voir s'ils vont rester attachés à sa parole. Un esprit de mensonge avait saisi des prophètes pour suggérer un roi. Oui, vas-y, tu vas l'avoir, la victoire. Et puis un prophète, Michée, lui dit non. L'Éternel m'a montré que tout l'Israël va être dispersé sur les collines, puis qu'ils n'auront plus de roi, comme quelqu'un qui n'a plus de roi. Vous allez périr si vous y allez. Il était tout seul qui disait la vérité, puis les autres, c'est tout un esprit de mensonge qui était rentré dans les prophètes, puis qui trompait le roi. Puis Dieu a permis ça dans le but de voir s'ils étaient pour écouter la vérité. Puis, je vais vous dire une autre affaire là-dessus. Dieu nous a dit, déjà dans sa parole, que dans les derniers temps, puis on est dans ces derniers temps-là, pensez pas que c'est pas là, c'est là. Dans les derniers temps, il y aura une puissance d'égarement pour que ceux qui croient au mensonge soient condamnés, puis ceux qui sont attachés à la vérité soient sauvés. Puis elle est là, la puissance d'égarement. Présentement, il y a des centaines et des milliers de chrétiens qui croient à toutes sortes de mensonges parce qu'ils se fient à d'autres choses que qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Puis il faut revenir à la parole de Dieu. Si tu écris qu'est-ce qu'on entend, puis là, d'aller lire les versets, puis de se fier à rester basé sur ça et non pas sur les fausses promesses d'esprits menteurs. Toute la révélation de Dieu est là, puis on n'a pas besoin de rajouter rien. Puis, pour conclure comment c'est grave le mensonge, là, Dieu a fait une promesse formelle contre les menteurs. Puis pensez pas que vous êtes comme nous sommes exempts de ça. Dans Apocalypse 21-27, ça nous dit, « Il n'entrera dans la ville sainte, dans le royaume de Dieu, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Il n'y a personne qui se livre au mensonge qui va rentrer dans la ville sainte. Puis même s'il y en a qui essaieraient de se convaincre puis de dire, voyons donc, si Dieu va laisser aller le monde en perdition. Puis il y en a, comme que Pierre vient de mentionner, il y en a qui ont fait des miracles dans le nom du Seigneur, mais Jésus, là, ça ne l'impressionne pas que tu utilises son nom pour essayer de faire des miracles. Il te connaît-tu personnellement, intimement? Y a-tu une relation avec toi? Puis est-ce qu'il est encore là, sa relation avec toi, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, à la fin de ta vie quand tu décolles, ou si tu étais une personne qui était rejetée parce que tu tiens dans le mensonge. Parce que tantôt, je l'ai dit, que ceux qui se tiennent dans le mensonge ne subsistent pas en sa présence. On ne peut pas dire qu'on demeure rempli de l'esprit quand on ment régulièrement. On se trompe soi-même, on est déjà en train de se mentir soi-même. Quel genre de personne voulons-nous devenir en tant que chrétien? Luc 6, 45 nous dit, « L'homme bon, il tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Qu'est-ce qu'on a en abondance dans notre cœur? Tout à l'heure, je l'ai dit au début, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les mensonges. Mais là, il dit, l'homme bon, lui, il va tirer des bonnes choses de son trésor, pas des mauvaises. Il va avoir des bonnes paroles. Comment est-ce qu'on va pouvoir arriver d'avoir de bonnes paroles? Il faut avoir des bonnes choses dans notre cœur, parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Si dans ton cœur, tu acceptes des mensonges, puis tu médites, puis tu vis là-dedans, puis tu es confortable là-dedans, puis tu penses que c'est correct, puis que Dieu s'en fout, puis Dieu trouve ça drôle, puis il n'y a rien de sérieux dans tes sanctifications, là, tu es déjà un rejeté, un réprouvé. La Bible parle de réprouvé dans le Nouveau Testament. Une personne qui... Puis il y a plusieurs synonymes de réprouvé qu'on retrouve de certains personnages, des gens qui n'ont pas passé le test. C'est ça qui est le but. Ils n'ont pas passé le test d'une foi vraiment sincère. On a eu la foi, on saisit le cadeau de la vie éternelle. Dieu dépose le Saint-Esprit en nous, puis là, il veut commencer un œuvre, puis il s'attend à ce qu'on produise du fruit. Puis là, on ne garde pas le contact avec Dieu parce qu'on l'a perdu, parce qu'on se tient dans le mensonge, puis on ne confesse jamais rien. Puis après ça, dans notre vie, on fait toutes sortes de choses qui déplaisent à Dieu, puis on pense que Dieu, c'est pas grave. On ne demande jamais pardon. Notre communion est perdue, puis on ne porte aucun fruit. On fait partie de ceux qui ont reçu la semence, mais qui n'ont pas de racines. Ça pénètre pas profondément dans la parole de Dieu. C'est des chrétiens qui reçoivent la parole avec joie parce qu'ils disent « Hey, va être sauvé, c'est le fun. » Trois semaines après, il y a des persécutions, des problèmes, puis ils lâchent tout parce que ça n'a pas de racine. Ou qu'on est étouffé par les convoitises, puis les séductions de richesse, puis les... ça nous empêche de porter du fruit. Dieu veut qu'on porte du fruit. Il s'attend à ce qu'on porte du fruit. Puis, il s'attend à ce qu'on change quand on entend sa parole. Puis, quand il nous parle d'un sujet comme ça, qu'il y a des esprits de mensonge qui essayent de nous injecter des idées, puis si on trouve ça drôle, puis on dit, c'est pas grave, moi j'ai l'intention de continuer à en dire des mensonges, ça m'arrange quand j'ai des troubles. Mais vous êtes liés, aveuglés, capturés par le diable, puis vous en allez dans la voie de la perdition. Si vous dites le contraire, ah ben moi, je le réalise que j'en dis des mensonges, mais je viens de comprendre que Dieu n'aime pas ça. Puis parce que Dieu n'aime pas ça, je veux changer. Je veux que Dieu vienne changer ma vie. Moi, j'ai bien de la misère à arrêter, j'ai besoin d'une délivrance. Père, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je te demande pardon pour mes menteries, puis je te demande de venir changer ça. Viens me délivrer de ça. Puis là, tu pries dans le nom de Jésus, puis là, Dieu va commencer à agir pour te l'enlever dans ta vie. Ta vie va changer, puis ça, ça fait plaisir à Dieu. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est pas nécessairement quand tu es rendu parfait, c'est quand tu veux qu'il te change. Quand tu veux dépendre de lui, quand tu t'accroches à lui, puis que tu utilises ta foi pour saisir les promesses de Dieu, puis que ça vienne changer ta vie, c'est ça ce qu'on appelle la conversion. C'est un des critères de base pour ton salut. Que tu reconnaisses que Jésus c'est le Sauveur, puis qu'il est le Seigneur, ça c'est une chose. Que tu regrettes tes péchés, c'est une deuxième chose, mais que tu te convertisses, ça veut dire que tu as l'intention d'obéir, tu veux mettre en pratique la parole, c'est le critère qui démontre que tu as des fruits dignes de la repentance. Quel combat sommes-nous prêts à livrer? On est-tu prêt à livrer ce combat-là, là, présentement, à combattre spirituellement contre les esprits de mensonge? Éphésiens 4, 25, ça nous dit, c'est pourquoi renoncer aux mensonges. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Quand ça nous dit renoncer aux mensonges, ça veut dire que c'est une décision que vous devez prendre aujourd'hui même. À partir d'aujourd'hui, je décide de renoncer à tout ce qui est mensonge. Moi, là, j'en veux pas de mensonge. Il n'est pas question que je compte de mensonge. Il n'est pas question que je laisse les esprits menteurs me mettre des idées, puis après ça, ils capturent ma bouche, puis après ça, je passe mon temps à contaminer tout le monde avec mon hypocrisie et mes mensonges. Il faut être vrai, frères et sœurs. On est un seul corps en tant que chrétien sauvé, né de nouveau. On est le corps de Christ sur la terre. Christ, c'est la vérité. Il dit que chacun de vous parle selon la vérité à son frère. Est-ce qu'on veut marcher dans la vérité? Je vais faire une prière. Répétez cette prière-là avec moi. Père Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on s'approche de toi. Premièrement, pour te demander pardon pour tous les péchés qu'on a faits dans notre vie et les mensonges. On reconnaît notre faiblesse et on a besoin de ton aide. Lave-nous dans le sang de Jésus pour être pur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Fais mourir les actions de notre corps et brise tout lien de l'ennemi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de la victoire que tu me donnes ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, frères et sœurs, le Seigneur vous l'a entendu. Puis commence une œuvre de délivrance dans vos vies. Puis persévérez dans ce combat-là, dans le combat spirituel, parce que la récompense est grande à la fin. Amen.